Quelques semaines, donc, après la mort du druide Hippie, et pour rappel, toujours un peu moins de 3 ans avant l'incident des carottes de Samuel, dans le bureau du capitaine von Pruton, le dit officier recevait la mère sœur Janine, laquelle était venue accompagner des autres femmes de son ordre.
Capitaine, cela fait pas moins de 7 années que mes sœurs et moi réclamons une action de la part de la milice. Nous avons donc été ravis d'apprendre que vous aviez nommé cet enquêteur-là, celui que l'on nomme l'inquisiteur.
Oui, de rien, sœur Janine, je suis très heureux que cette décision vous ait satisfaite. Je vous souhaite donc la bonne journée.
Cependant, j'avoue que je trouve dommageable que vous ne m'ayez pas confié le commandement de cet enquêteur, étant donné mon expérience dans le domaine de la lutte contre la sorcellerie. Enfin, au moins votre agent est-il performant, si l'on en croit la rumeur. Ce n'est du reste pas exactement pour cela que je suis venu vous voir.
J'avoue que je me pose la question, en effet. Je n'ai pas d'obligation envers vous, et la création du département de régulation des activités non naturelles devrait normalement vous avoir comblé. Je m'étonne donc de vous voir revenir, à nouveau.
Oh, rassurez-vous, je ne vous embêterai qu'une dernière fois, capitaine. Du moins si vous répondez positivement à cette ultime requête.
Cela ressemble à du chantage, mais allez-y toujours, nous verrons bien.
Je tiens à vous rappeler l'urgence du cas de Marianne, cette petite putain qui se terre dans les bois de l'Ouest. Il semble évident qu'elle constitue une grande menace à l'encontre de la ville, voire même du royaume entier. Dois-je vous rappeler les nombreuses victimes qu'elle a fait dans les rangs de mon ordre? Et cela, sans oublier notre mère supérieure qu'elle a cruellement assassinée?
Je vous ai déjà dit qu'une enquête avait été menée à l'époque, par l'inspecteur Barnabé et son partenaire Raoul. Elle avait été classée sans suite, je vous le rappelle.
Et moi, je vous rappelle que cela n'a pas de sens. Je veux voir le dossier de cette enquête.
Je vous ai déjà dit également que cela est impossible. Ces documents sont confidentiels, les civils n'ont pas le droit de les consulter.
Si je puis me permettre, capitaine, pourquoi ne pas alors simplement nous lire les détails dont vous vous rappelez ?
C'était il y a près de 7 ans, et je me rappelle avoir seulement lu les conclusions de ce rapport et pas son développement. J'avais énormément de travail, et je vous l'avais d'ailleurs dit et redit lors de vos visites à l'époque. Vous autres, les sœurs, semblez être une véritable ode à la redondance.
Mais si vous le voulez bien, capitaine, pourquoi ne pas lire ce dossier, vous, ici et maintenant, et juste nous faire part des éléments qui peuvent être révélés? Cela nous permettrait peut-être d'avancer. Excellente idée, sœur Portia! Et donc, capitaine, le ferez-vous?
Bon, attendez-moi là.
C'est en rechignant que l'officier alla acquérir le dossier concerné dans l'une des armoires à classement du fond de la pièce. Ensuite, le palant, il revint s'asseoir en face des religieuses, lesquelles bouillonnaient d'impatience, certaines d'ailleurs, au point d'en rougir.
Bien. Je commencerai par vous rappeler, mes sœurs, que le corps de votre mère supérieure n'a jamais été retrouvé. Cette dame a donc aussi bien pu choisir de disparaître. Elle est adulte et en a par conséquent le droit.
Cela n'est pas son genre. Elle ne nous aurait jamais abandonnés, vous savez.
Du reste, il semble que vos 10 amis aient trouvé la mort au cours d'un phénomène naturel. L'inspecteur Barnabé rapporte ici que les habitants d'Oreo, le village à l'orée du bois concerné, ont tous affirmé avoir vu poindre un ouragan au-dessus de ce bois ce jour-là. Quelle idée aussi vous avez eue de vous y promener par un temps pareil. Bref, ces faits ont été enregistrés comme un accident. Sauf pour l'une de vos sœurs qui, d'après Barnabé, se serait suicidée en s'empalant volontairement le long d'un tronc d'un sapin sectionné.
Mais c'est scandaleux! C'est révoltant! Quand voudrez-vous bien admettre que c'est cette gamine qui a déclenché cet ouragan à l'aide d'un sortilège? Votre homme est-il seulement allé l'interroger dans sa cabane pleine à ras-bord de grimoires maléfiques?
Mes enquêteurs ne rapportent rien concernant des livres, voyons. Ah, peut-être là.
Il nous reste à rencontrer l'enfant et à inspecter sa cabane. Mais au moment de faire cette constatation, il est 12h35. C'est donc l'heure de la pause déjeuner.
Continuez.
Raoul et moi retournons en ville, très désireux de consommer pour papa un pain saucisse de la taverne CGG. Le temps de nous rendre sur place et de nous sustenter, il est 17h48. La journée est donc terminée, et ceci avec 18 minutes d'heures supplémentaires déclarées si jointement. Le matin suivant, pluie abondante. Nous décidons donc que les éléments d'enquête collectés la veille suffisent pour nous éviter de retourner dans les bois. Et en plus, Michel va faire des crêpes ce midi à la cantine du donjon.
Je dois bien avouer que quelque chose cloche avec ce rapport. En même temps, c'est le sergent Barnabé qui dirigeait l'enquête, et il est du genre fidèle à lui-même, hein. Maudite loi sur le quota de handicapés.
Ah, vous voyez, vos hommes ont été incompétents, et ils n'ont même pas rencontré la gamine. Si cela avait été fait, la milice aurait pu vérifier ces ouvrages impies et constater les hérésies qu'ils contiennent, et alors vous auriez enfin compris quel genre de garce est la petite Marianne. Il est vrai, capitaine, que notre bonne sœur Janine ne nous a jamais donné à douter de ses observations quant au caractère de Marianne. Feriez-vous enfin quelque chose contre cette pauvre pêcheuse ?
Bien, je signalerai donc le contrôle de cette suspecte comme prioritaire à l'agent Mulot. À présent, sortez et ne revenez plus !
Il ne fallut pas 2 jours ensuite pour que Colin et son équipe, chevauchant leur canasson, se rendissent dans le bois de l'Ouest sous le soleil de midi. Ce lieu se trouvait, pour info, non loin du village d'Orio, le patelin même où ils avaient neutralisé le druide Hippie l'autrefois. La destination exacte de l'escouade était un modeste chalet au bord de la rivière locale et à l'intérieur du dit bois, endroit qu'ils allaient gagner en vue de contrôler cette jeune sorcière nommée Marianne.
Et paraît-il que la petite possède des bibliothèques bien garnies. Je devrais probablement écouler tous ces bouquins sur plusieurs ventes, histoire de ne pas en faire dévaluer le prix.
Hey !
Oui, pardon, mouchard. Nous devrions...
La dangerosité du sujet à contrôler, souvent rendue notoire par les sœurs, poussa les membres du département à être précautionneux. Colin avait momentanément délaissé son manteau rouge pour se camoufler à l'aide d'une cape brune. Les sbires avaient également adopté cet habit. Mouchard, quant à lui, se targuait d'avoir d'emblée un manteau adapté. Arrivés non loin de la cabane, les 6 hommes se planquèrent dans les fourrés. Baillons et cordages furent distribués à chaque agent stagiaire, partage durant lequel l'inquisiteur expliqua sa stratégie.
Tenez, ainsi nous maximiserons nos chances d'immobiliser et de faire taire la sorcière avant qu'elle n'ait le temps de nous lancer un sort. Mais il va pour cela falloir optimiser nos chances de la surprendre. Je vais donc partir en éclaireur, et pendant ce temps, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Mouchard, toi, il me semble préférable que tu t'occupes de garder les chevaux.
D'accord, si jamais il s'échappe, moi je viendrai le dire.
Sbire, quant à vous, vous vous diviserez en 2 groupes. L'un se planquera dans les buissons au nord-est, et l'autre derrière la petite colline au sud-sud-ouest. Et pour ma part, pendant ce temps, je vais approcher discrètement de l'entrée et tâcher de faire diversion. Je me ferai passer pour un marchand et j'attirerai la fille à l'extérieur pour soi-disant lui montrer mes produits qui seront, hypothétiquement, dans la sacoche qui contenait les cordages. Et là, sbire, c'est alors que vous interviendrez lorsque vous entendrez le signal. Je dirai le mot « champignon ». Soyez attentifs, est-ce que c'est bien compris ? Bon, on y va.
Le patron veut qu'on se divise en 2 groupes ? Mais ça fait combien, 4 divisé par 2 ? Parce que moi, les maths...
Oh, je sais pas, moi, des... Elle n'en reste que quel jour, déjà ?
Oh, on va garder les chevaux, nous aussi, hein. Ça, au moins, je comprends.
D'accord, mais c'est moi le chef, sinon moi je vais aller le dire.
Et pendant cette discussion hautement constructive, tapis dans les fourrés, Colin Mulot avançait lentement. Au maximum de sa concentration et le cœur battant, notre ami s'interdisait de fermer les yeux, fixant sans interruption la porte du chalet. Mais soudain... Sans qu'il n'eût le temps de l'atteindre, la porte du chalet s'était ouverte. Bien que ses plans fussent de fait perturbés, Colin demeura stoïque, il se tapit davantage et observa. Marianne, alors âgée de 16 ans, semblait sortir prendre l'air, comme pour se dégourdir le corps, après une pleine matinée de lecture. Les 2 bras levés et les mains tenant sa nuque, la jeune fille s'étirait en souriant de bien-être, tandis que l'une de ses épaules dépassait du large col de sa robe. Les mailles espacées du vêtement en laine légère laissaient paraître une partie de sa peau, et les 2 rayons du soleil printanier, passant au travers et en contre-jour, confisquaient tout mystère aux détails de sa silhouette. L'inquisiteur resta d'abord sans voix, mais il se reprit vite, car primait avant tout sa mission et l'énorme paquet de fric que contenait sans doute la cabane de la délicieuse donzelle que notre ami mirait en catimini. Aussi, ce dernier profita que Marianne tourna le dos pour sortir des fourrés et s'éloigner. Rapidement, il fit ensuite mine d'arriver de la forêt.
Oh, bonjour, mademoiselle. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un vivait si loin dans les bois. Notez, le cadre y est charmant.
Bonjour,
répondit Marianne en replaçant son col par-dessus son épaule et avant de croiser les bras.
Que venez-vous faire ici, au juste ?
Eh bien, je suis marchand itinérant, je vais là où le vent me porte pour vendre mes champignons.
Des champignons ?
Oui, je vends des champignons. Voudriez-vous m'acheter des champignons ? Ah, ils sont bons, vous savez, mes champignons. Mais que font ces crétins? Je vous assure, mademoiselle, de tous les champignons, on ne fait pas de champignons aussi bons que mes champignons. Ce sont les champignons de tous les...
Ça va, j'ai compris, mais non merci, ça ira. Je peux en trouver plein en forêt si besoin.
Vous ne voulez vraiment pas de mes champignons?
En tout cas, c'est original, votre métier. Hein. J'ai tout d'abord cru que vous seriez un autre paysan venu m'acheter un remède.
Un remède? C'est donc là votre métier? Vous êtes guérisseuse? Vous pratiquez la magie, tout ça, tout ça?
Disons que je suis juste herboriste, même si beaucoup de gens en ville se plaisent à imaginer le pire à mon sujet.
Ah, cela dit, votre langage me semble bien raffiné pour une fille de la campagne.
Je lis beaucoup, cela vient sans doute de là.
Oh, j'aime aussi beaucoup lire. Et quels ouvrages appréciez-vous?
Dites, vous n'avez pas des champignons à aller vendre?
Vous trouvez que je ne devrais pas moisir ici?
Disons que je ne reçois que de façon sporadique. Je n'ai donc pas l'habitude que cela s'attarde.
Oui, et moi je suis déjà à court de calembours, je le crains.
Je vous avoue que moi aussi. Bon, au revoir.
L'inquisiteur était conquis. Marianne dégageait quelque chose d'étrange, mais d'agréable à ressentir. Cela n'était pas qu'une simple attirance physique, non, non. Voyez-vous, la subtile agressivité misanthropique de la demoiselle avait quelque chose d'inédit pour notre cher Colin. Cette autre âme solitaire, aux yeux verrons perçants, l'un vert et l'autre ocre, le changeait très positivement des cruches ou des bourgeoises qu'il avait jusque-là charmées ou entubées, que ce fût à la foire ou dans les rues de la capitale.
Je vais vous laisser dans ce cas, mais aurais-je le droit de revenir, jolie demoiselle?
Jolie? Moi? Je suppose qu'on ne me regarderait pas avec tant d'effroi ou de méfiance si c'était le cas.
Mademoiselle, vous êtes magnifique, c'est un ordre. Et que vous le vouliez ou non, vous êtes en train d'obéir.
À vos ordres, général. Vous n'êtes pas mal non plus. En tout cas, ça me change des vieux paysans et des... Enfin, vous êtes encore là?
Alors moi, je sais pas si je dois venir vous le dire.
C'était quoi, ça?
Ah, merde. Oh, c'est sûrement mon assistant qui... qui fait encore n'importe quoi. Je vais le rejoindre, hein. À une prochaine fois...
Marianne.
Colin, j'y vais, mais je reviendrai, hein. Promis, ma belle.
Et Colin s'éloigna dans une course semi-maladroite, tandis que Marianne regagnait sa cahute, crispée, mais avec un léger sourire. Exceptionnellement, elle aussi ravie par cet échange incongru. Une fois caché par les arbres, notre ami fonctionnaire s'arrêta un instant pour souffler. Le jeune homme se sentait en proie à une sensation totalement inconnue par lui. Il se sentait entier, bien, confiant au monde. Il ne lui faisait à présent aucun doute qu'il y aurait désormais sa vie d'avant et sa vie après ce jour. Ah ben oui, ah ben oui, voilà, nous y voici enfin arrivés, mes merveilleux auditeurs. Oui, nous voici enfin revenus à l'instant où le fameux flashback a été lancé au début de la page précédente. Oui, et nous retrouvons donc Colin et ses hommes longeant la rivière avec lenteur dans une prairie verdoyante. Notre ami, l'inquisiteur, qui avait réenfilé sa désormais célèbre cape rouge, était à cet instant, comme vous vous en doutez, plongé dans l'état de douce mélancolie dans lequel nous l'avons découvert l'autre fois. Mouchard et les quatre sbires, quant à eux, suivaient en silence, tâchant de ne pas trop la ramener, hein, gênés qu'ils étaient d'avoir failli à leur part de la mission.
Moi, j'ai bien fait mon boulot, et ça, vous oubliez de le dire.
Et soudain, le calme des lieux fut ébranlé par une voix tremblotante, venant du bord du chemin, depuis derrière un buisson bien fourni.
En vérité, je vous le dis, de tous les maux, le pire est à venir. Car naïf est celui qui le croit disparu à jamais.
Hé, hey Kevin, tu le reconnais pas, celui-là?
Ah ben si, c'est le trophée. Vu qu'il est sur la liste, on va lui casser la gueule, boss.
Hein? Oh, non, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est qu'un clodo et il n'a même pas d'objet de valeur.
La richesse n'est pas un plat qui se mange froid. Car qui n'a de foyer n'a pas non plus de four.
Allez, s'il vous plaît, patron, vu qu'on doit reporter la descente chez cette Marianne-là et qu'on n'a pu tabasser personne aujourd'hui.
Oh oui, oui, allez, s'il te plaît, monsieur l'inquisiteur.
L'inquisiteur, cet homme est donc... Je l'avais prédit. Minette, 5 sous, tu me dois.
Vous n'allez pas refuser ça, hein? Allez, dites oui!
Bon, ça va, ça va! Mais fichez-moi au moins la paix pour le reste de la journée après ça!
Ouais.
Génial! Ah, on n'est pas payé, mais on a au moins ça!
Je vais lui refaire la face, moi! Ah, ça, j'avais toujours rêvé de pouvoir le dire!
Quand jusqu'au cou dans la merde vous êtes, le bon endroit pour y prendre ses jambes, c'est là!
Pas si vite!
Hé, il s'échappe! Retenez-moi! Mais retenez-moi! Hé, mais pourquoi personne n'y veut me retenir?
Ah, mais il faut le rattraper, vite, Hattie! Il filante les arbres là-bas!
Et aux sbires ainsi qu'à Mouchard de courir parmi les arbres et la végétation pour rattraper le vieux prédicateur. Hélas pour eux, le barbu vagabond avait disparu, lui qui avait pu se fondre dans l'épaisse flore printanière. C'est donc bredouille et dépité que les cinq hommes revinrent à leurs chevaux, non sans s'être préalablement défoulés sur le chat et les deux poules qui étaient restés sur le bord du chemin. Toujours noyé dans ses sentiments, Colin avait poursuivi sa route à Palan, sans attendre ses comparses. Ceux-ci le rattrapèrent au petit trot pour ensuite, tous ensemble, regagner la tour de la milice, dans la ville capitale de notre cher royaume lointain sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et qui est un sol propice à la poussée des carottes. Cependant, voyez-vous, cette scène ne s'arrête pas ici, car le vieillard susmentionné avait encore une action à accomplir. Le prophète, en sang, boiteux et commotionné, sortit peu à peu des bois pour s'écrouler non loin de la cabane de notre chère Marianne. Celle-ci le remarqua par une fenêtre ouverte et fonça à son secours.
Décidément, il y a foule aujourd'hui.
La gentille demoiselle, apitoyée, fit ingurgiter au pauvre infortuné allongé sur le sol quelques rasades d'une potion de soin de sa confection. Il ne fallut que quelques instants à l'ermite pour recouvrer ses esprits, et c'est alors qu'il agrippa brusquement sa sauveuse par l'épaule, et en la regardant d'un air grave, il lui confia...
En grand danger vous êtes, ma petite! L'homme à la cape rouge, cet inquisiteur! Celui qui tue les magiciens comme nous! Un jour ou l'autre, je l'ai oui! Ici est pour vous prendre! Il viendra! Ici!